Le lendemain matin, les nerfs de mon ami avaient repris leur équilibre et sa curiosité n'était pas moins excitée que la mienne. Peut-être l'était-elle plus, car il croyait évidemment ce qu'il m'avait raconté, et j'en doutais beaucoup. Non pas qu'il fût capable de mentir de propos délibérés, mais je pensais qu'il s'était trouvé en proie à une de ces hallucinations qui saisissent notre imagination ou notre système nerveux dans les endroits solitaires et inaccoutumés, et pendant lesquels nous donnons des formes au vide et des voix au silence. Nous choisîmes 6 vieux mineurs pour surveiller notre descente. Et comme la cage ne contenait qu'une personne à la fois, l'ingénieur descendit le premier. Quand il eut atteint la corniche sur laquelle il s'était arrêté la première fois, la cage remonta pour moi. Je l'eus bientôt rejoint. Nous nous étions pourvus d'un bon rouleau de corde. La lumière frappa mes yeux comme elle avait la veille frappé ceux de mon ami. L'ouverture par laquelle elle nous arrivait s'inclinait diagonalement. Cette clarté me paraissait d'une lumière atmosphérique, non pas comme celle que donne le feu, mais douce et argentée comme celle d'une étoile du Nord. Quittant la cage, nous descendîmes, l'un après l'autre, assez facilement grâce aux fentes des parois, jusqu'à l'endroit où mon ami s'était arrêté la veille. Ce n'était qu'une saillie de roc, juste assez spacieuse pour nous permettre de nous y tenir de front. À partir de cet endroit, le gouffre s'élargissait rapidement, comme un immense entonnoir, et je voyais distinctement de là la vallée, la route, les lampes que mon compagnon m'avait décrites. Il n'avait rien exagéré. J'entendais le bruit qu'il avait entendu, un murmure confus et indescriptible de voix, un sourd bruit de pas. En m'efforçant de voir plus loin, j'aperçus dans le lointain les contours d'un grand bâtiment. Ce ne pouvait être un roc naturel. Il était trop symétrique.